Chapitre 9. Autour de Richard, les colonnes de roches brillaient faiblement à la lumière spectrale du soleil couchant. Alors que le sourcier contemplait la chaîne de montagnes, dans le lointain, les ombres qui enveloppaient les pics prenaient peu à peu une teinte violette. Sur les contreforts des collines déboisées, les grands rochers couleur ocre se tenaient à intervalles réguliers comme autant de sentinelles résolues à barrer le chemin aux intrus. Sur le sol semé de petits cailloux, les bottes de Richard produisaient un concert de crissements dont l'écho se répercutait à l'infini. Désirant être seul pour réfléchir, Richard était parti en éclaireur. Quand les gens vous bombardaient de questions, penser sérieusement à un problème était presque impossible. Le sourcier était très mécontent. Jusque-là, le livre ne lui avait rien appris sur la bizarre frontière qu'il avait découverte. Pis encore, il restait dans le noir total au sujet du titre de l'ouvrage « Les piliers de la création », un nom qui désignait à la fois un lieu et les personnes étrangères au don comme Jensen. Au point où il en était de sa traduction, l'ouvrage semblait être un texte historique qui traitait d'une foule d'événements et faisait régulièrement allusion aux piliers de la création, les personnes, pas l'endroit, et aux multiples tentatives toutes vaines de guérir ces malheureux. Richard avait de plus en plus l'impression que ce livre recensait des dizaines de détails qui finiraient tôt ou tard par être les éléments fondateurs d'une catastrophe. À la façon méticuleuse dont l'auteur rendait compte de toutes les solutions qu'on avait essayées, il semblait évident que le problème n'était pas à prendre à la légère. Mais pour quelle raison? La réponse ne se trouvait pas dans ce que Richard avait traduit jusque-là. Afin de ne pas ralentir le rythme du voyage, il avait travaillé dans le chariot pendant qu'il cahotait sur le chemin de plus en plus accidenté. Le dialecte étant légèrement différent du haut-daran dont il avait l'habitude, le travail avançait lentement. D'autant plus qu'être secoué comme un prunier dans un véhicule grinçant n'était pas une ambiance idéale pour traduire. Richard était dans l'incapacité de dire si le livre finirait ou non par lui fournir des réponses. Mais il avait hâte d'arriver à la dernière page, ce qui pouvait passer pour un bon signe. Pour être franc, il aurait volontiers sauté plusieurs chapitres, mais il avait payé pour apprendre que ce n'était jamais une bonne solution. En croyant gagner du temps, on en perdait, car on se privait d'une vue d'ensemble rigoureuse, une recette miracle pour déduire n'importe quoi et en arriver à des conclusions dangereusement erronées. Non, le sourcier devait avancer pas à pas comme il convenait. Après une journée de travail acharné, sa concentration rivée sur le livre, Richard avait récolté une atroce migraine. Ses maux de tête l'avaient laissé tranquille pendant des jours. À présent, il revenait et c'était plus pénible chaque fois. Bien qu'il l'eût caché à Callan, le sourcier se demandait s'il arriverait vivant à Tanimura, où il trouverait un puits de la Slif. Dès qu'il cessait un instant de traduire, Richard se creusait en vain la cervelle pour découvrir une solution. S'il ignorait quel remède pouvait mettre fin à des céphalées provoquées par le don, il avait l'intuition que la solution était en lui. Une affaire d'équilibre qu'il ne maîtrisait pas, redoutait-il. Quand il partait seul à l'avant, il avait recours à la méthode que préconisaient les sœurs de la lumière, méditer intensément pour tenter de toucher son don. Il n'avait obtenu aucun résultat. S'avisant que le crépuscule tombait, Richard songea qu'il était temps de s'arrêter pour la nuit. Mais le terrain avait changé, et il était difficile de choisir un endroit sûr. Désormais, les coins propices aux embuscades ne manquaient plus, et avec les coureurs qui les pistaient, les voyageurs ne pouvaient se sentir nulle part en sécurité. Richard sauta hors du chariot. Se dégourdir les jambes lui ferait du bien, l'aidant à penser à ses deux problèmes, le livre et les migraines. De plus, il tenait à sonder les environs lui-même. Le sourcier s'immobilisa un moment pour observer une famille de colins. Les oisillons trottinaient sur une bande de terre découverte. Perché sur un rocher, le père montait la garde. Dès que sa progéniture se fut enfoncée de nouveau dans les broussailles, il disparut à son tour. Des conifères à beaux gris poussaient sur les flancs des collines et sur les contreforts des montagnes. Plus haut, le long des pentes abruptes, des pins majestueux se dressaient en rang serré. Au pied des pics, dans les zones abritées des intempéries, des buissons touffus se blottissaient les uns contre les autres. Par endroits, des carrés d'herbe grasse ondulaient au vent, îlots de verdure encore perdus au milieu d'un océan de roches. Richard essuya la sueur qui ruisselait sur son front. Le soir approchant, il espérait que la température deviendrait plus clémente. Hélas, ce n'était pas sûr. Alors qu'il avançait dans un ravin entre deux collines, il prit son outre et s'apprêta à boire de longues goulées. Mais un mouvement, sur le flanc d'une colline lointaine, attira son attention. Jugeant judicieux de se dissimuler, le sourcier se glissa derrière un gros rocher. Quand il jeta un coup d'œil au-delà de sa cachette, il vit qu'un homme descendait prudemment la pente raide de la colline. Le bruit des cailloux qui crissaient sous les bottes de l'inconnu se répercutait à l'infini dans le canyon rocheux. Dès qu'ils auraient quitté le désert, le risque de rencontrer des gens augmenterait. Richard le savait et il avait pris des mesures pour limiter les dégâts. Pour commencer, il avait demandé à ses compagnes de se débarrasser des tenues sombres des nomades pour remettre leurs vêtements de voyage. Richard lui-même portait désormais un pantalon noir et une chemise assortie. Rien d'extraordinaire, mais son épée risquait néanmoins d'attirer l'attention. Habillé à la mode de l'ancien monde, un empire où le peuple vivait dans la pauvreté, Callan ne parvenait pourtant pas à passer inaperçu. Ses magnifiques cheveux, son port altier, son aura, aucun vêtement ne pouvait cacher cela. Et dès que ses yeux verts se rivaient sur quelqu'un, le malheureux ou la malheureuse éprouvait un besoin urgent de tomber à genoux et de baisser la tête. En ce qui concernait la mère inquisitrice, l'habit ne faisait pas la femme. Sans nul doute, Jagang avait fait circuler partout la description de ses deux pires ennemis. Et bien entendu, il avait dû mettre sur leur tête une récompense assez somptueuse pour encourager les délateurs. Cela dit, beaucoup de citoyens en avaient assez de la dictature de l'ordre impérial. Se fichant de la prime offerte par l'empereur, ces hommes et ces femmes-là étaient prêts à se battre pour la liberté. Il y avait aussi le problème du lien qui unissait le seigneur Ral à tous les darans. Grâce à cette magie mise en place par un ancêtre de Richard, tous ses sujets pouvaient sentir où il était. Du coup, l'ordre avait un excellent moyen de localiser le sourcier. Torturer un daran jusqu'à ce qu'il trahisse son seigneur. Et si le premier prisonnier ne craquait pas, les bourreaux de Jagang n'étaient pas du genre à hésiter d'en maltraiter d'autres. Le voyageur venait d'atteindre le pied de la colline et il commençait de remonter le lit d'un ruisseau desséché dans un endroit défilé. Sur la droite du sourcier, le chariot et les chevaux soulevaient comme d'habitude une impressionnante colonne de poussière. L'inconnu semblait avancer dans cette direction. De si loin, on ne pouvait pas en jurer, mais Richard doutait fort qu'il puisse s'agir d'un soldat. Qu'aurait fait un éclaireur ou un espion solitaire dans son propre pays? Et l'ardent foyer de la révolte contre l'ordre impérial était beaucoup trop loin d'ici pour que l'homme soit un révolutionnaire. Les soldats réguliers, quant à eux, n'avaient aucune raison de patrouiller dans un secteur si désert. C'était bien pour ça, d'ailleurs, que le sourcier et ses compagnons avaient choisi ce chemin. Un détour vers l'est avant de repartir plus directement vers le nord, une fois la chaîne de montagnes traversée. Cela posé, le fameux lien avait peut-être révélé la position du seigneur Ral à ses ennemis. Dans ce cas, la zone entière devait grouiller de soldats. Une colonie de fourmis rouges lancée à la poursuite d'une proie. Richard grimpa au sommet d'un grand rocher plat et s'allongea sur le ventre. L'homme continuant à s'approcher, le sourcier constata qu'il était jeune, moins de 30 ans à coup sûr, plutôt maigre et absolument pas vêtu comme un soldat. À le voir s'en mêler les pieds sur les cailloux, il n'était pas habitué à ce genre de terrain. Dès qu'il avait le choix entre deux chemins, il se trompait immanquablement, optant pour le plus difficile. À ce rythme-là, il ne tarderait pas à tomber de fatigue. L'inconnu s'immobilisa et tendit le cou pour mieux observer le chariot. Le souffle court, il se passa les doigts dans les cheveux, s'essuya le front, puis se plia en deux, une main sur un genou, comme si cette position pouvait l'aider à récupérer. Quand il se releva et se remit en route, le pas mal assuré sur le lit de cailloux, Richard descendit de son perchoir et se cacha de nouveau derrière le rocher. Puis, il avança à son tour, chaque pin racorni et chaque buisson lui fournissant un moyen de se dissimuler. Lorsqu'il marquait une pause, le bruit des pas et le souffle de l'inconnu étaient un peu plus forts. Grâce à ces sons, le sourcier savait qu'il se rapprochait du type, et cette astuce lui épargnait d'être repéré en se montrant à découvert. Quand il eut atteint une muraille rocheuse de 60 bons pieds de haut, Richard se plaqua à la roche et jeta un regard prudent au-delà. Sans que l'inconnu le remarque, il avait réussi à combler l'essentiel de la distance qui les séparait. En remontant jusqu'à l'autre extrémité de la muraille rocheuse, il prendrait de l'avance sur l'homme qui multipliait les détours inutiles et n'aurait plus qu'à attendre pour le cueillir au passage. Quand il eut atteint son objectif, le sourcier s'immobilisa, plus silencieux qu'un fantôme. Il bondit hors de sa cachette pour se camper moins de 6 pas devant l'inconnu. Le malheureux en cria de surprise, porta une main au col de son manteau de voyage en tissu léger et recula d'un pas. Richard étudia le voyageur avec une impassibilité de surface, mais en lui, le pouvoir de l'épée de vérité bouillonnait déjà comme de la lave. Soudain, le sourcier sentit faiblir cette magie. Comme l'arme se fiait aux perceptions de son maître pour évaluer le danger, l'hésitation pouvait s'expliquer car le voyageur ne semblait pas du tout menaçant. De taille moyenne, il portait un pantalon noir, une chemise de lin et un manteau en coton qui avaient tous vu des jours bien meilleurs. Mais après tout, Richard aussi avait mis des vêtements passe-partout afin de ne pas se faire remarquer. L'homme paraissait épuisé. Son sac à dos, tristement dégonflé, ne devait plus rien contenir, et les 2 outres suspendues à ses épaules étaient sans nul doute vides. À première vue, le type n'avait pas d'armes, même pas un couteau. Il attendait, hésitant, comme s'il redoutait d'être le premier à parler.
« Tu te dirigeais vers mes amis, dirait-on ?»
fit Richard en désignant la colonne de poussière dans le lointain. Il se tut, laissant une chance à l'inconnu de s'expliquer. Nerveux, l'homme se passa plusieurs fois la main dans les cheveux. Tel un pilier de pierre, Richard lui barrait le chemin. Se demandant s'il ne ferait pas mieux de décamper, le type regardait à droite et à gauche, en quête d'une voie d'évasion, mais de la résignation se lut très vite dans ses yeux bleus. Il était piégé.
« Je ne te veux aucun mal, » dit Richard. « Je cherche seulement à savoir ce que tu mijotes. »«
Pardon ?
Pourquoi tu te diriges vers le chariot, si tu préfères ?»
L'homme tourna la tête vers la colonne de poussière, puis il regarda de nouveau le sourcier et baissa les yeux sur son épée.
« Je cherche de l'aide. »«
De l'aide ?»«
Oui, je voudrais rencontrer un homme qui sache se battre. »
« Un guerrier ? C'est ça que tu veux dire ? » ?»«
Oui. » »«
L'ordre impérial en compte des millions. Si tu cherches bien, tu t'en dénicheras un. »
Le type secoua la tête.
« Non, je cherche l'homme venu de très loin au nord. Celui qui a offert la liberté au peuple opprimé de l'Ancien Monde. Le sauveur qui nous a rendu l'espoir que l'ordre impérial, le créateur ait pitié de ce ramassis de bouchers, puisse être un jour rayé de la surface du monde. »«
Désolé. » mentit Richard. « Mais je ne connais personne qui corresponde à cette description. »
L'homme ne parut pas déçu, mais plutôt franchement incrédule. Malgré son scepticisme, il affichait une expression amicale de fort bon aloi.
« Au moins, me permettriez-vous ?»
Le type tendit un index hésitant.
« Puis-je avoir à boire ?»«
Bien entendu, »
répondit Richard. Il saisit son outre et l'attendit au voyageur. La traitant comme si renverser la moindre goutte avait été un crime capital, l'homme retira le bouchon puis commença de boire. Soudain, il cessa et éloigna l'outre de ses lèvres.
« Désolé, j'ai failli boire toute votre eau. »«
Continue, » dit Richard. « Nous avons des réserves dans le chariot et tu sembles mort de soif. »
Sous le regard du sourcier qui avait passé un pouce dans sa large ceinture de cuir, le voyageur inclina respectueusement la tête puis recommença de s'hydrater.
« Où as-tu entendu parler de ton héros de la liberté ?»
demanda Richard. Le type cessa de nouveau de boire.
« Tout le monde en parle. L'espoir qu'il a ranimé brûle désormais dans tous les cœurs des citoyens de l'Ancien Monde. »
Richard se réjouit intérieurement de cette nouvelle. Même dans les endroits les plus sombres d'un pays, des hommes et des femmes rêvaient de mener leur vie comme ils l'entendaient, en travaillant dur pour améliorer leur quotidien.
Dans le ciel, un coureur apparut et entreprit de décrire un grand cercle au-dessus des 2 hommes. Richard n'avait pas emporté son arc. De toute façon, l'oiseau était hors de portée de flèche. « Désolé de ne pas pouvoir t'aider, »
dit le sourcier tandis que le coureur, sans doute satisfait de ce qu'il avait vu, repartait à tire-d'aile.
Je voyage avec ma femme et ma famille pour trouver du travail et un endroit où vivre tranquille. »
S'il voulait que son plan marche, Richard devait s'occuper de la révolution.
Beaucoup de gens comptaient sur lui, et il ne les décevrait pas. Mais avant, il devait régler des problèmes plus urgents.
« Mais, Seigneur Ral, mon peuple a besoin... »«
Pourquoi m'appelles-tu comme ça ?»«
Je... navré, je ne voulais pas vous énerver. »«
Qu'est-ce qui te fait croire que je suis le Seigneur Ral ?»«
Eh bien, il est évident que... enfin, que puis-je dire ? Désolé de vous avoir offensé, Seigneur Ral. »«
Qu'avons-nous donc là ?»
s'écria Kara en sortant soudainement de derrière un rocher. L'inconnu sursauta de surprise, recula d'un pas et serra l'autre sur sa poitrine comme s'il s'était agi d'un bouclier. Son couteau à garde d'argent au poing, Tom surgit de derrière un autre rocher dans le dos du pauvre type. Cerné de toutes parts, le voyageur regarda autour de lui et manqua de s'évanouir quand il vit Callan debout près de son mari. Malgré leurs vêtements anonymes, il fallait bien admettre que tous ces gens ne ressemblaient pas à de simples voyageurs en quête d'un toit et d'un travail.
« Pitié !» dit l'homme. « Pitié, je n'ai pas de mauvaises intentions. »«
Du calme !» dit Richard avec un regard appuyé à Kara. Son injonction ne s'adressait pas seulement à l'homme, mais aussi à la mort de Sith. « Voyages-tu seul, mon ami ?»«
Oui, Seigneur Al. Je remplis une mission pour mon peuple, comme je vous l'ai déjà dit. Soyez assuré que je ne vous en veux pas de votre comportement musclé. » D'un homme comme vous, je n'attendais rien de moins.
Pourquoi pense-t-il que vous êtes le Seigneur Al ?
Demanda Kara à Richard d'un ton presque accusateur.
J'ai entendu des descriptions du libérateur,
répondit l'inconnu. L'autre, toujours pressé sur la poitrine, il tendit son bras libre.
Et cette épée ? On parle beaucoup de l'arme du Seigneur Al.
Il tourna la tête vers Callan.
Et il y a aussi la mère inquisitrice, bien entendu.
« Bien entendu !»
répéta Richard avec un gros soupir. Il avait prévu de devoir cacher l'épée quand il rencontrerait des étrangers, mais il ne s'attendait pas cependant que l'arme soit si universellement connue. Cela dit, elle serait facile à dissimuler. En revanche, il en allait autrement pour Callan. Fallait-il la vêtir de haillons et la faire passer pour une lépreuse ? L'inconnu se pencha prudemment en avant et tendit son outre à Richard.
« Merci beaucoup, Seigneur Al. »
Le sourcier but une gorgée d'eau trop chaude, puis passa l'outre à Callan, qui la refusa d'un simple hochement de tête. Après avoir bu encore un peu, Richard remit le bouchon et repassa la bandoulière à son épaule. « Comment te nommes-tu » demanda-t-il au voyageur.
« Owen. »«
Eh bien, Owen, tu devrais passer la nuit dans notre camp. Nous en profiterons pour remplir tes outres. » Se retenant d'exploser, Kara se tourna vers Richard.
« Pourquoi ne me laissez-vous pas ?»
commença-t-elle les dents serrées. « Owen a des problèmes que nous pouvons tous comprendre. » l'interrompit Richard. « Il s'inquiète pour sa famille et pour ses amis. Au matin, il continuera sa route et nous partirons de notre côté. » Le sourcier ne voulait pas que le type rôde dans la nuit alors qu'ils avaient un moyen de garder un œil sur lui. À l'aube, il serait facile de s'assurer qu'ils ne les suivent pas. Kara comprit enfin le plan de son maître et elle se détendit un peu. Elle aussi aurait détesté ne pas savoir où était Owen, surtout pendant que ses protégés dormaient. Richard et Callan se dirigèrent vers le chariot. Owen les suivit, Tom et Kara lui emboîtant le pas. En chemin, Richard finit de vider son outre. Dans son dos, Owen le remercia plusieurs fois de l'invitation et jura qu'il ne dérangerait pas ses hôtes. Le sourcier entendait bien qu'il en soit ainsi.